Vous savez tous que l'étude de la doctrine divine, de la doctrine de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie, dans un mot très vague, et que dans cette théologie, il y a plusieurs spécialités. Il y a la bibliologie. De quoi ça parle à votre avis, la bibliologie ? De la Bible, comment elle s'est constituée, d'où viennent les textes, et pourquoi certains textes sont reconnus comme inspirés, d'autres non, etc. La christologie, étude du Christ. L'angélologie.
Ce qui vient des anges.
Les anges. Alors il y a les bons anges et il y a les mauvais anges. C'est Satan qui était un ange déchu et c'est les anges qui l'ont suivi. L'anthropologie, c'est quoi ça ? Voilà, l'étude de l'homme, de sa condition, de sa création, de son péché. Un mot que vous connaissez peut-être moins, c'est la sotériologie.
La quoi ?
Sotériologie. Alors, c'est pas le saut en hauteur, c'est la doctrine du salut. Soter, c'est le salut en grec. L'ecclésiologie. Voilà, l'étude de l'Église, comment elle s'est formée, quelle est sa vocation. Et puis il y a un nom encore plus bizarre qu'on appelle l'eschatologie.
La fin des temps.
Voilà, alors ça vient du mot qui veut dire dernier, eschatos. Et donc c'est le nom scientifique ou pédant, le nom un peu savant qu'on utilise pour parler des questions de la fin des temps. On va regarder juste rapidement, on ne va pas l'étudier, mais si vous voulez vous tourner dans Matthieu 24, page 30 dans la Bible à la colombe, si vous avez au début du Nouveau Testament, à la fin du premier évangile. Le chapitre 24, dans la Bible, le second, il y a marqué « Discours sur la fin des temps ». C'est un des passages où Jésus lui-même parle de la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, écrit par qui ? Par Jean. Hein, parle aussi de cela. Et en fait, on va voir, en parlant de ces questions, que ce sont des sujets qui imprègnent toute la Bible, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament. Et là, Jésus parle à ses disciples. Et un événement qui était clair pour eux et pour tous ceux qui regardent vraiment la Bible, c'est que Jésus est venu une première fois, mais il va revenir. On y reviendra. Dans beaucoup d'églises, notamment l'église catholique, c'est quelque chose dont on parle plus trop. C'est quelque chose qu'on a perdu. Et pourtant, c'est clair comme de l'eau de broche dans la Bible. Et on va lire ensemble les premiers versets de ce chapitre 24. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Parce qu'ils étaient impressionnés. C'était le temple qui avait été reconstruit par Hérode. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour vous, pour beaucoup, une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, on pourrait continuer, on y reviendra en étudiant les questions de la fin des temps et le livre de l'Apocalypse. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus, aussi bien que les disciples, savait qu'il devait revenir. Et en fait, dans l'histoire de l'Église, il y a une doctrine qui s'est imposée, qu'on appelle l'amillénialisme. C'est-à-dire que cette période du retour de Christ qui vient pour régner, elle a été un peu évacuée, elle a un peu disparu, dans le sens où cette doctrine dit qu'en fait il n'y a pas de millénium à proprement parler, il n'y a pas un règne de 1000 ans. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire cela? C'est parce qu'en fait ils ont décidé de ne pas prendre la Bible à la lettre. Alors vous savez tous que dans la Bible, il y a différents genres littéraires, il y a de la poésie, il y a de l'histoire, il y a de l'enseignement, et on est tous en mesure de faire la différence entre la poésie et un récit historique. Mais pour beaucoup, et ça a commencé très tôt dans l'histoire de la Bible, plutôt de l'Église, avec un dénommé Origène, qui a été le premier à dire qu'en fait il ne fallait pas prendre tout à la lettre, ce qui est vrai dans un certain sens, mais qui n'est pas vrai dans le sens où il a remplacé des descriptions historiques par des allégories. Il a dit qu'en fait le retour du Christ, ça ne veut pas dire qu'il va vraiment revenir, ça veut dire simplement qu'il va être si fort en nous, que c'est comme s'il était revenu. Et ce qui était terrible, c'est qu'en fait, un des grands théologien qui est à la base de l'Église au Moyen-Âge, saint Augustin, il a repris cette théorie, et c'est ce qui fait que l'Église catholique a adopté comme théorie sur la fin des temps le fait qu'il n'y avait pas de retour réel de Jésus. L'amillénialisme est devenu une prophétie, une façon de voir la fin des temps pour l'Église catholique. Et ça a influencé non seulement l'Église catholique, mais beaucoup d'églises, même les églises de la Réforme. Luther, avec la Réforme, a vraiment nettoyé l'idée fausse que le salut se méritait par les œuvres. Ça a été le grand apport de Luther. Il est revenu à la Bible, notamment en lisant Romains, qui citait le fait que le juste vivra par la foi, le salut vient de la foi et non pas des œuvres. Il a bien remis les choses, les pendules à l'heure en ce qui concerne cette doctrine, mais ils se sont tellement appliqués à corriger cette erreur qu'ils n'ont pas corrigé toutes les erreurs qui s'étaient infiltrées dans l'Église catholique, notamment cette idée qu'il n'y avait pas de retour de Jésus sur terre pour régner pendant 1000 ans. Alors, en fait, ce règne de Jésus, on peut trouver 1845 références dans l'Ancien Testament qui parlent du retour de Jésus. Il y a 17 livres de l'Ancien Testament qui donnent beaucoup d'importance à ce retour, notamment les prophètes. On a parlé du livre de Daniel, qui est peut-être un des livres les plus clairs à ce sujet. Et, pour ceux qui sont là le dimanche, pour le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, c'est un des grands prophètes qui parle du règne messianique, du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Et pas quelque chose d'imaginaire, mais quelque chose qui va se passer réellement, physiquement. Dans le Nouveau Testament, on trouve près de 318 références au retour de Jésus-Christ sur la planète Terre. Et 23 des 27 livres du Nouveau Testament font état de ce retour de Jésus sur terre. Donc c'est une doctrine qui est une doctrine clé, et c'est vraiment triste de voir que cette doctrine a été passée sous silence pendant si longtemps. On peut même dire qu'en fait, cette doctrine s'est accompagnée du fait qu'on a dit qu'en fait, Israël était remplacé par l'Église. Parce qu'on sait que l'Ancien Testament montre la faillite des Juifs à appliquer le plan de Dieu. Vous vous souvenez, à la base, ils étaient le peuple élu pour apporter une bénédiction à toutes les nations. Eux, cette élection, le fait qu'ils aient été choisis par Dieu, par Abraham, et qu'il y ait eu les patriarches, que la Bible leur ait été donnée, l'Ancien Testament, la Torah et toutes les prophètes, au lieu d'en faire une source de responsabilité pour annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime les hommes, ils en ont fait un sujet d'orgueil, un sujet de gloire raciale, en disant qu'en fait ils sont spéciaux parce que Dieu les a choisis. Mais du coup, l'Église des premiers siècles et l'Église catholique a dit qu'en fait les Juifs avaient perdu leur opportunité, et donc ils étaient remplacés par l'Église comme peuple élu. Et ça s'accompagne en fait ça accompagne la doctrine de l'amillénarisme, qu'il n'y a pas de millénaire. Et on peut même dire qu'en fait les persécutions qui ont pris pour objet les Juifs, elles se rattachent à cette doctrine. Le fait que les Juifs, en fait, ils ont eu leur chance, ils sont plus là. Certains ont même dit que si on pourrait faire une étude montrant de Saint-Augustin jusqu'à Auschwitz, le fait que les Juifs n'étaient plus un peuple qui avait une destinée particulière avec Christ, ça montrait que ça permettait de les persécuter jusqu'au point de l'Holocauste, qui fait qu'à peu près un Juif sur trois a disparu pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une partie qui manque dans la théologie, c'est en fait la partie qui s'occuperait de suivre Israël, parce que on pourrait appeler ça l'israélologie. C'est pas une doctrine typique de la théologie, et pourtant il est très important de distinguer entre Israël et l'Église. Si on fait pas ça, on n'y comprend plus rien dans la Bible. Et c'est pour ça que lorsqu'on a éliminé Israël dans les temps derniers, on est obligé de recourir à des tas de subterfuges pour comprendre ce qui est dit dans le texte. On va utiliser des allégories, et en fait, on ne comprend plus rien. Et notamment lorsqu'on étudie le livre de l'Apocalypse, on ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, on le verra en survolant l'Apocalypse, il est très clair que Dieu a un plan pour son Église, et qu'il a aussi un plan pour le peuple juif, parce que l'alliance donnée à Abraham, c'était une alliance inconditionnelle, c'était une alliance qu'il allait bénir ce peuple, et les promesses de Dieu, elles sont irrévocables, elles ne sont pas parce qu'il a décidé d'un seul coup que les Juifs se comportaient pas bien, que maintenant il va changer ses promesses. On a vu qu'il y avait dans les épîtres, revenons si vous le voulez au passage de 2 Timothée 3,16, que vous connaissez sans doute tous. C'est Paul qui écrit à Timothée, qui lui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Paul parlait à l'époque de l'Ancien Testament, mais ceci s'applique bien sûr au Nouveau Testament. Le principe que l'écriture inspirée est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer, afin que tout homme qui suit Dieu soit adapté et préparé à faire ce qu'il demande. C'est un principe valable, éternellement. Je voulais juste vous faire remarquer, il y a trois mots, pour enseigner, pour convaincre, pour redresser. On pourrait dire pour la doctrine. Pour convaincre, c'est pour faire un... montrer qu'il y a une erreur. C'est pour faire une espèce de reproche. Et puis pour redresser, c'est pour corriger. Et en fait, ces trois éléments de doctrine, de reproche et de correction, on a vu en regardant les lettres du Nouveau Testament, qu'on voit cette séquence. Par exemple, la lettre de Paul aux Romains, c'est un livre de doctrine, c'est un livre, maintenant vous pourriez dire, c'est un livre de sotériologie, parce que ça parle du salut, ça nous enseigne comment on est sauvé comment ?
Par
le sang de Jésus, mais surtout on n'est pas sauvé par les œuvres, comme certains le pensaient, on est sauvé par la foi en Christ, par le moyen de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de venir à la foi, de mettre notre confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour être au bénéfice de son salut, et c'est tout. 1 et 2 Corinthiens, c'était une lettre de reproche. Il y avait une église des premiers siècles qui avait beaucoup de problèmes, et il leur donnait des reproches. Puis dans Galates, la lettre de Paul aux Galates, c'était de la correction. Il leur disait, je ne peux pas comprendre, vous avez bien commencé à marcher par la foi, et maintenant vous voulez revenir sous la loi. Donc c'est, on voit la doctrine, le reproche, la correction. La lettre de Paul aux Éphésiens, c'est une lettre de doctrine, encore une fois. Là, ça va être la doctrine de l'Église. Il va expliquer ce que c'est que l'Église. C'est une doctrine, on pourrait dire... C'est une lettre d'ecclésiologie. Vous voyez, d'un seul coup, vous êtes devenus des théologiens distingués. Ça, c'est la doctrine. Dans Philippiens, il va faire des reproches à l'église de Philippe qui avait des disputes, il va leur expliquer qu'ils ont perdu leur joie, qu'ils n'ont plus de raison, etc. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, qui suit dans le Nouveau Testament, il va les corriger, il va leur expliquer qu'en fait Jésus est suprême, qu'il a la suprématie, il est tout ce dont ils ont besoin. Et là, les deux lettres qui suivent, 1 et 2 Thessaloniciens, c'est encore de la doctrine, et là ça va être de la doctrine sur les derniers temps. C'est des lettres très importantes parce qu'elles nous expliquent un peu ce qu'est, pour le chrétien, ce à quoi on doit s'attendre. Si vous le voulez, on va regarder ensemble certains passages et on va commenter. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, on va lire jusqu'à 18, il nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ça veut dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivements, restés pour l'avènement du Seigneur, son retour, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est un passage très important qui explique un peu ce que le chrétien mort fabrique, ou qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe pour lui, aussi bien que pour les chrétiens qui seront encore vivants au moment du retour du Seigneur. Il y a un autre événement dont vous avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement. Et c'est le mot qui est utilisé dans le chapitre, dans le passage que nous venons de voir, au verset 17, nous serons enlevés. Et c'est un peu comme un kidnapping. D'un seul coup, on est là, à un autre moment, on ne l'est plus. Revenons, si vous le voulez, pour voir la corrélation à Matthieu 24. Regardons à partir du verset 35, chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement, c'est-à-dire la venue ou le retour du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous avez peut-être entendu parler de cette série de romans basés sur la Bible qui s'appelle, en français, c'est comment ? En anglais, c'est « Left Behind ». C'est ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont laissés derrière. Ça, c'est la série qu'on dispose à la librairie en français, traduit en français, sur le fameux enlèvement de l'Église. Vous avez peut-être vu des films où d'un seul coup, il y a des gens qui ne sont plus là. On ne voit plus que leurs vêtements par terre. Tu dis ? Oui ? Vous avez entendu parler de ça ?
J'ai vu même sur YouTube, sur tout ça.
Voilà. L'enlèvement de l'Église. D'un seul coup, il y en a qui sont enlevés, d'autres qui restent. Alors, il est, pour comprendre, on revient, si vous le voulez, à Thessaloniciens. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui, malheureusement, suite, encore une fois, à l'influence de saint Augustin qui a dit tout ça, s'il ne fallait pas prendre ça à la lettre. Il fallait comprendre que c'était des façons de parler pour expliquer que Dieu venait dans nos cœurs, etc. Beaucoup d'églises n'enseignent pas ces vérités. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe quand on meurt. Et justement, Paul, sa préoccupation, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui se passe, de ceux qui dorment, pour que pas, vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et c'est vrai que les gens qui perdent un être cher, c'est dramatique, c'est très triste. Vous avez sans doute connu, peut-être vous-même, vous n'étiez pas chrétien, vous avez perdu des êtres chers. Il y a un grand désespoir parce que on n'a pas de, a priori, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors il y a une espèce de religion populaire qui aimerait bien penser, qui aimerait bien s'assurer qu'on ira tous au paradis. Il y a une fameuse chanson, voilà. On ira tous au paradis. Hein. Et on voit ça, c'est toujours très attristant pour nous qui connaissons la parole, qui connaissons la vérité, de voir à quoi se raccrochent les gens. Les gens pensent que, oh, ma grand-mère, en fait, elle est au ciel. Et je sens qu'elle me regarde et je peux lui faire des prières pour elle. Elle va m'aider maintenant qu'elle est là-haut, elle doit avoir des relations, peut-être qu'elle peut influencer les choses sur Terre. Et en fait, il y a un très grand vide, il y a une espèce de mythologie populaire, mais les gens sont complètement désemparés. Et je, en tant que pasteur, je suis souvent appelé par même des non-croyants à venir officier ou venir dire une prière lorsque quelqu'un décède. Et on aimerait bien que les gens comprennent ce qui se passe, que peut-être c'est trop tard pour la personne chère, l'être cher, mais que eux, il y a des choses clairement expliquées dans la Bible. Et Paul dit, si vos bien-aimés sont des chrétiens, ne vous attristez pas comme les autres, parce que vous, c'est pas pareil, vous êtes sauvés. Nous savons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et que Dieu va ramener aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Autrement dit, ceux qui sont morts, ils vont être ressuscités et ils vont revenir avec Jésus. Et là, verset 15, il dit, voilà ce qui va se passer. C'est le Seigneur qui m'a parlé, qui m'a expliqué ces choses après une parole du Seigneur. Nous n'allons pas devancer ceux qui sont déjà morts, parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Les morts en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, qui dorment en fait, ils vont être ressuscités. Puis nous les vivants qui serons restés, si le Seigneur revient, c'est l'avènement du Seigneur, revient lorsque nous sommes encore vivants, alors nous aussi, nous serons enlevés, c'est l'enlèvement d'Église, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Donc on peut se dire que soit l'être cher qui était chrétien, il va être ressuscité, nous allons être enlevés, on va quitter la terre, c'est l'histoire que Jésus lui-même disait, il y aura deux personnes, il y en aura un, deux femmes qui seront en train de faire le préparer le repas, il y en a une qui partira, puis l'autre qui restera. On va dire, tiens, mais passez-vous. Deux hommes seront dans un champ, il y en a un qui partira, l'autre qui ne partira pas, qui restera là. C'est repris donc par ces films et ces romans, mais qui ont une base biblique. Et en fait, on voit qu'en fait, le Seigneur, le retour du Seigneur, il s'accomplit en deux phases. Il y a d'abord le Seigneur qui revient. Pour l'enlèvement de l'Église, il vient chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont venus croire en lui, ceux qui ont mis leur foi en lui, qui ont cru en lui. Soit ceux qui sont morts à ce moment-là, il va les ressusciter, soit ceux qui sont là sur terre et pof, il va nous rappeler pour être avec lui. Jean disait dans Jean 14, lorsque les disciples savaient qu'il allait il leur avait dit qu'il allait mourir. Dans Jean 14, il les encourageait en leur disant « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et je prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Une promesse que lorsqu'il va revenir, ses disciples, et ça inclut les futurs disciples que nous sommes, ceux qui ont mis leur foi en lui, ceux qui sont morts, il va nous prendre pour qu'on soit avec lui. Donc il va venir chercher son église, et ça c'est l'enlèvement de l'église. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître fou, ça peut paraître un peu, pour les non-croyants, comme de la mythologie, mais c'est ce que la Bible enseigne. Et si vous croyez en Jésus parce que la Bible vous a parlé de lui et vous a, par son esprit, convaincu de sa réalité, le retour de Jésus pour enlever son église, c'est une vérité qui est clairement enseignée dans la Bible. Et donc, c'est quelque chose de très encourageant. Parce qu'on peut se dire qu'il y a des choses terribles qui peuvent se passer, mais à un moment donné, et sans aucun préalable. Là, il n'est pas dit qu'il doit y avoir des circonstances préalables. C'est pour ça qu'il y a cette notion dont Jésus parlait dans Matthieu 24, de son retour comme un voleur. On verra qu'il y a d'autres façons de voir les choses de la fin et qui disent qu'en fait, il y a des préalables à son retour. Alors, on va voir qu'il y a un deuxième événement qui est le retour pour régner sur la terre. Et c'est vrai que là, on pourra savoir que ça va arriver. Mais cette notion qu'à tout moment, il peut venir nous enlever. Ça doit changer notre façon de voir le monde, de façon de vivre. Tite parlait de la bienheureuse espérance qui est la nôtre. Et il disait qu'en fait, on peut regarder dans... C'est à la fin des... Après Timothée. Au chapitre 2. Verset 11, on peut lire, là, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » Cette bienheureuse espérance, c'est justement ce retour de Jésus en deux temps. Jean, dans 1 Jean 3, c'est page 270 dans la Bible à la colombe, il disait, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Et donc cette espérance, cette certitude que Dieu va revenir et qu'il peut revenir à n'importe quel moment, c'est une source de purification. C'est une... Lorsqu'on se dit qu'à... Peut-être avant qu'on ait terminé cette étude, le Seigneur pourrait revenir pour nous prendre avec lui, pour être dans les nuages, dans les nuées, pour remonter et être là avec lui. C'est une source de changement de vie. ça nous purifie. On va se dire, zut, alors je ferais bien de payer mes impôts complètement sans essayer de tricher. C'est pas le moment de... Je vais... Et cette espérance, en fait, elle est une source de purification. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Jean-Pierre Dalmasso, le pasteur des Assemblées de Dieu. Et il avait une belle illustration parce qu'il avait un ami qui était jardinier dans une belle villa à Villefranche sur mer. Et il expliquait qu'en fait, ses patrons pouvaient venir habiter la villa à n'importe quel moment. Il ne lui donnait pas de préavis, il ne lui disait pas, tiens, dans 3 semaines, on va venir. Et donc, il savait qu'à tout moment, le jardin devait être impeccable. Et de la même façon, le fait qu'on ne sache pas l'heure, mais qu'on sache qu'à n'importe quel moment, Jésus peut revenir, ça nous invite à avoir le jardin impeccable, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que ça nous invite à purifier notre vie de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de ce qui ne lui plaît pas. Et donc c'est une doctrine, c'est pas seulement la doctrine, encore une fois, ça influe sur notre façon de vivre. Des fois on dit, oh bon, la doctrine, les théologiens, la théologie, la sotériologie, l'eschatologie... C'est pour des spécialistes, et nous on doit aller au travail tous les matins, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. En fait, c'est faux. La doctrine concernant la fin des temps, encore une fois, c'est quelque chose qui imprègne toute la Bible. Le fait que Jésus va revenir et qu'on doit être prêt. C'est Amos qui disait, es-tu prêt à rencontrer ton créateur. Donc, il y a d'une part l'enlèvement de l'Église et continuons un peu à voir quelques passages dans 1 Thessaloniciens, qui est un livre de doctrine sur la fin des temps. Donc, on est à la fin des lettres de Paul. Avant Timothée, on peut lire à partir du verset 1 du chapitre 5 de Timothée, de 1 Thessaloniciens, pardon. Page 233. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Juste une petite parenthèse. Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il leur rappelle des choses qu'il leur a enseignées. Et quand on sait qu'en fait, Paul avait passé combien de temps à Thessalonique à enseigner la première fois qu'il était venu. Il n'a pas passé des années, ils n'ont pas attendu 10 ans avant d'avoir ces choses enseignées. Il y avait passé 2 semaines, ou 2 mois, je ne sais plus, mais c'est une période de temps très courte, il faudrait que je revoie dans le livre des Actes, une période très courte, il avait parlé de ces choses de la fin des temps. Dans la plupart des églises, on ne touche jamais à l'Apocalypse, on ne touche jamais à ces passages, on n'essaye pas de comprendre, parce que il y a trop de... c'est trop bizarre, c'est en plus l'influence de l'Église catholique, des églises traditionnelles protestantes, et on ne touche pas à ces choses parce que c'est un peu allégorique, etc. Paul leur dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, parce que vous le savez déjà, je suis passé 2 semaines, 2 mois, et je vous ai parlé de toutes ces choses. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. C'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que la casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, Nous vivions ensemble avec lui ensemble. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Alors, Dieu, le jour du Seigneur, Jésus l'a dit, ça va venir comme un voleur. Et là, il leur dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, c'est pas l'enlèvement d'église, c'est la période de jugement qui viendra sur la terre. Et cette période de jugement, c'est ce qu'on appelle des fois la grande tribulation. Je vous invite, si vous avez jamais entendu un enseignement sur la prophétie de Daniel, chapitre 9, à l'écouter en ligne. Mais cette période de 77e semaine, c'est une période de 7 ans, et c'est une période de jugement. C'est la période des fois dite de la grande tribulation, bien que la période de la grande tribulation, suivant la façon dont nous voyons les choses, et on y viendra par la suite, c'est la deuxième partie, les 3 ans et demi de ces 7 ans. C'est une tribulation, c'est-à-dire c'est un jugement de Dieu sur la terre. On se dit des fois, pourquoi ton Dieu il permet ces choses-là? Parce que pour l'instant, Dieu est patient avec nous. Il veut que tous soient sauvés, que tous viennent à la repentance. S'il avait jugé la terre il y a 30 ans, moi je ne serais pas sauvé. Et probablement que peu d'entre nous seraient sauvés. C'est la période de la patience, mais viendra un jour, un peu comme l'illustration ou la préfiguration qu'est l'arche, l'histoire de l'arche de Noé. Je vous invite à visiter la chapelle Sixtine à côté. C'est très sérieux, l'arche de Noé. À un moment donné, les gens qui n'étaient pas rentrés dans l'arche, c'était trop tard, la colère de Dieu est tombée dessus, ils sont morts dans le déluge. Et de la même façon, il y a un moment donné où Dieu va faire un jugement sur la terre, la grande tribulation. On confond les choses un peu des fois parce qu'on se dit, mais tous les chrétiens passent par des épreuves. C'est pas la grande tribulation, c'est pas les tribulations. Il est dit dans la Bible clairement, Paul, Jésus ont dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Vous aurez des tribulations sur la terre, mais moi, j'ai vaincu. Les tribulations, les épreuves, c'est des épreuves qui sont causées par qui ? Qui sont causées par les 3 ennemis du chrétien, Satan, le monde et notre propre vieille nature, la chair. Satan, le monde et la chair. On a dit que Satan contrôle le monde, le système de valeurs du monde, et que ce système de valeurs, il est très attrayant pour notre vieille nature. Donc ces 3 éléments se combinent pour nous faire tomber dans le péché. Notre vieille nature qui dit « Ah, ça serait bien de pouvoir faire ça ». Le monde qui nous dit « Oui, pourquoi pas ?» Et Satan qui est là « Ah, celui-là, il ne va pas aller à Christ, je vais le garder dans le péché ». Ces 3 éléments nous séparent de Dieu. Et quand on comprend en fait que la grande tribulation, c'est cette période, c'est ce jour du Seigneur dont parle ici Jésus. Le moment où on va être enlevé, on ne sait pas quand ça va arriver. Ça pourrait être dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'épreuves préalables ou de choses préalables. Par contre, la grande tribulation, nous, on sera, les chrétiens seront déjà partis. Mais tous ces événements de la fin des temps, et c'est là qu'on voit les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les maladies. Et en ce moment, alors encore une fois, on ne sait pas l'heure. Et il y a plein de gens qui se sont risqués à dire, ça y est, ça sera en 2010 que Jésus va revenir, qu'il y aura la fin des temps. La Bible est claire, seul le Père, pour l'instant, le sait. Mais nous sommes appelés à reconnaître les signes de la fin des temps. Alors, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des maladies. Mais lorsque, et encore une fois, acte 17, soyez comme les Béréens, ne croyez pas ce que je vous dis, regardez ce que dit la Bible et faites-vous vous-même votre propre jugement sur ces choses. On vit à une époque où, avec Internet, il est très facile d'aller chercher des informations, de les recouper. On n'est pas dépendant d'un prêtre pour savoir. On a la Bible nous-mêmes, on peut la lire, on peut essayer de la comprendre, on peut faire des recoupements. Mais à tout moment, on peut être appelé par Jésus. Par contre, la fin des temps, toutes ces choses, ça va être précédé par le règne de 1000 ans va être précédé par, pour ceux qui ont cette vision des choses, par cette période de grande tribulation. Alors, on a dit, il y a l'enlèvement de l'Église, il y a la grande tribulation, il y a le règne de 1000 ans. Alors, l'Église catholique dit que le règne de 1000 ans, ça n'existe pas vraiment. Il y en a qui disent que le règne de 1000 ans, ils sont post-millénialistes, c'est-à-dire qu'il viendra, ce règne de 1000 ans, après la fin des temps, dans le sens où ce sera plutôt, eux, ils pensent que l'Église est en train d'amener le règne de Jésus sur terre, se fait par l'influence de l'Église sur la terre. Alors c'était peut-être possible de penser ça il y a 500 ans, lorsque l'Église était puissante, qu'elle imposait des choses, que les gens allaient se confesser, etc. Nous on voit aujourd'hui que l'Église ne peut pas à elle seule amener le règne de Jésus sur terre. C'est Jésus lui-même qui va devoir revenir. Et on peut regarder dans 2 Thessaloniciens une autre lettre de Paul. De Thessaloniciens, verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne la venue, le retour, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Chapitre 2 de Thessaloniciens, page 234. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne de vous ne séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et va se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous, et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se relève qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient est encore disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Un passage très important pour montrer un peu la séquence des choses. Les Thessaloniciens, dans cette Paul écrit cette lettre pour les réconforter, parce qu'il se disait qu'en fait les persécutions avaient déjà commencé, donc il pensait qu'eux avaient été laissés pour compte, qu'ils avaient été laissés derrière. Et il leur dit, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé, la grande tribulation n'est pas arrivée. Donc là encore, ça contribue à bien distinguer qu'il y a deux événements. Il y a l'enlèvement de l'Église. Ne vous faites pas de soucis, lorsque ça arriverait, vous serez emmené avec vous serez avec Jésus. Et puis il y aura cette grande tribulation, il y aura ce jugement, ce jour du Seigneur, qui, avant qu'il s'applique, il va falloir qu'il y ait cet impie. Et ça fait référence à qui? Peut-être que vous savez un peu.
L'Antéchrist.
À l'Antéchrist. L'Antéchrist. dont Jésus parlait, si on revient à Matthieu, il doit se passer avant qu'il y ait la grande tribulation. Il va y avoir l'apparition de cet homme, et on en reparlera dans l'Apocalypse, qui aura beaucoup de charisme, au sens de beaucoup de... Il plaira dans les médias et on trouvera qu'il est formidable. Un peu comme, alors je ne dis pas que c'est lui, mais un peu comme tout le monde est en admiration devant Obama. Un noir qui est si doué, qui est calme, qui a plein d'idées, qui parle avec assurance. L'antéchrist, ça sera quelqu'un qui sera adoré à la place. Antichrist, des fois on le dit, on pense qu'il va être contre Christ. En fait, il va prendre à la place de Christ, de Jésus, il va se faire adorer. Le prophète Daniel avait parlé de l'abomination de la désolation, qui est en fait le fait que dans le temple à Jérusalem, cet homme se fera adorer à la place de Dieu. On sait qu'il y a une première réalisation de la prophétie de Daniel, dans le sens où il y a eu Antioche Épiphanès, un des rois qui ont succédé à l'empereur Alexandre, qui a pris le pouvoir à Jérusalem et qui a même sacrifié des cochons, un animal impur, sur le trône, sur l'autel à Jérusalem, et qui s'est fait adorer. Mais ça, c'était une première réalisation. Là, il y a un homme qui sera animé par Satan, qui va se faire adorer dans le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un temple reconstruit à Jérusalem.
Et tout est prêt.
Pardon?
Excusez-moi, j'ai vu un reportage, ils ont tout taillé, tout est prêt.
Et c'est très intéressant, effectivement, on en reparlera en parlant de l'Apocalypse, de savoir qu'il y a des juifs orthodoxes qui ont déjà préparé des ustensiles. Alors la grande question, c'est qu'en fait, de reconstruire un temple, ça veut dire une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le temple, l'emplacement du temple, certains disent que non, d'autres disent que oui. Aux dernières nouvelles, ce sera en plein à la place de la mosquée, du dôme, du rocher. En France, on parle de l'esplanade des mosquées. Aux États-Unis, en Israël, on parle du mont du temple. Pourquoi? Parce que les Arabes, les musulmans plutôt, ont construit des mosquées là où justement où il y avait le temple qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et donc on touche là à des choses et c'est fascinant. Alors là il y a de la science, il y a des informations réelles, il y a un peu de science-fiction, il y a un peu de sensationnel, mais l'idée qu'il y a des gens qui se préparent, des prêtres juifs qui reprennent, qui ont fabriqué les ustensiles. Il y a même une vache rousse qui a été reconstituée par des recherches génétiques. C'est intéressant que André Guen travaille sur, il faudrait que je lui en parle d'ailleurs de ce sujet, qui a fait la séquence du génome des bovins, des vaches, des bœufs. Cette vache rousse dont il est question dans le livre des Nombres, apparemment ils ont déjà une vache qui pourrait être sacrifiée, qui correspondrait. Donc vraiment tout est en place. Des événements qu'on ne pouvait pas comprendre lorsqu'on lisait les prophéties de l'Ancien Testament, comment on pouvait voir partout au même moment ce qui se passait à Jérusalem. Maintenant on ne fait même plus attention, on nous montre sur CNN, on voit... France 3, on voit des événements qui se passent, on voit une finale de Coupe d'Europe des clubs qui est transmise en direct dans le monde entier. La technologie, tout est prêt au point de vue de la possibilité pour que ces choses arrivent. Et en plus, les signes avant-coureurs auxquels nous devrions être sensibles, tout est là. Alors ça ne veut pas dire que ça va... peut-être que je mourrai avant que ça n'arrive, mais je dois vivre et je crois que Dieu veut que nous vivions tous et à toutes les époques comme si son retour était pour tout de suite. Parce que je sais que, alors ça, je vais gêner un peu les dames, mais elles n'aiment pas les visites à l'improviste, parce que la maison est en désordre. Mais écoute, non, je préfère que tu me dises avant que... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que Nancy qui est comme ça, mais... Et je te demande pardon pour te mettre mal à l'aise. Mais quand on sait que quelqu'un arrive, on fait le ménage. On nettoie. Et de la même façon, Jésus, il veut qu'on soit prêt à l'accueillir à tout moment. Donc, c'est très important pour bien mettre en tête, et on va terminer peut-être là-dessus, pour l'instant, c'est de bien comparer l'enlèvement de l'Église avec le retour de Christ pour juger la terre. On verra donc en fonction du moment, si, son retour, il y en a qui pensent qu'il va l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. C'est ce qu'on appelle la pré-tribulation. Nous, on est à Calvin-les-Chapelles et dans beaucoup d'églises évangéliques, on dit qu'on est pré-tribulationniste. Ça veut dire que l'enlèvement d'église se passe avant que les épreuves de la grande tribulation arrivent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est enseigné dans beaucoup de passages de la Bible, le fait que Dieu ne nous a pas destinés, ça c'était dans 1 Thessaloniciens 5:9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Partout, lorsqu'Abraham marchandait avec Dieu pour savoir s'il y avait quelque juste à Sodome, est-ce qu'il l'épargnerait, Dieu épargne les justes. Et on peut penser donc que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église, les croyants sont emmenés au ciel, la terre n'est pas jugée, et c'est seulement pour les croyants, c'est avant le grand jour de la colère, Jésus revient pour les siens. Il vient chercher son épouse. Hein, c'est comme... Tu es venu chercher ton épouse. Tu n'as pas voulu qu'elle passe d'abord par des épreuves terribles, hein, pour qu'elle soit purifiée. Non, tu as voulu lui épargner. Il vient dans les airs et seul ceux qui lui appartiennent le voient. La grande tribulation, ce sera après. Et le retour de Christ, les croyants reviennent avec Jésus. La terre est jugée. Ça sera précédé par cette année, donc cette période de la grande tribulation. Ça, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Tous les hommes et toutes les femmes de la terre verront le retour de Christ. Ça, c'est annoncé dans Zacharie. Tous ceux qui l'ont percé, tous les hommes verront. Satan sera emprisonné pour une période de 1000 ans. Nous serons appelés après, pendant cette période de 1000 ans, à régner avec lui. Les chrétiens régneront avec Jésus pendant cette période. Et puis...
Sur la terre.
Donc,
on sera enlevé d'abord avec Jésus et voilà. On reviendra après la tribulation.
Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Tu l'as très bien fait. Il est dit aussi que le peuple d'Israël, lui, passera par la période de la grande tribulation. Il y aura des gens sauvés parmi les Juifs, parmi ceux qui naîtront. Un des dangers de cette série et de ce film là, sur ceux qui sont laissés derrière, là, de Laë et compagnie, ça donne l'impression que les chrétiens qui n'auront pas accepté, qui n'auront pas été enlevés par Jésus, auront le temps... ou ceux qui auront entendu l'Évangile mais qui ne seront pas venus à Christ, qui seront encore sur terre lorsqu'il y aura la grande tribulation, pourront se venir à Christ. C'est pas sûr, ça, du tout. Parce que, justement, dans 2 Thessaloniciens, ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux que soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Le danger avec cette série, c'est de nous faire croire que peut-être on a une seconde chance. On peut vivre n'importe quand, puis quand on sera sûr qu'il y a des gens qui sont partis, et puis que maintenant ça commence à aller vraiment mal. Non. Là, apparemment, ceux qui auront déjà entendu l'évangile et qui l'auront refusé une fois n'auront pas une deuxième chance. Il y aura une puissance d'égarement qui fera qu'ils ne pourront pas revenir à Dieu, à Christ. Par contre, ceux qui naîtront à cette époque-là, il y aura des nouveaux saints, et on en parlera dans l'Apocalypse, il y aura des nouvelles personnes qui seront sauvées, et les Juifs qui, pour la première fois, entendront l'Évangile, ou les personnes qui entendront pour la première fois l'Évangile, pourront être sauvées. Donc pendant cette période de grande tribulation, elle est appelée le temps d'angoisse pour Jacob, dans Jérémie 30, verset 7. Et Daniel, le prophète, dira dans le verset, le chapitre 12, et on terminera avec ça. En ce temps-là se lèvera Michel, 12:1, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple, et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie dont nous avons déjà parlé. On a dit que pendant l'Holocauste, il y avait un juif sur trois qui avait disparu, puisqu'il y avait à peu près une vingtaine de millions, et 18 à 20 millions de juifs sur la terre, et que 6 millions de juifs ont été exterminés dans les camps d'Auschwitz. Dans Zacharie, c'est la dernière citation, Zacharie, juste un peu avant Matthieu, avant Malachie, le dernier des petits prophètes, dans le chapitre 13, versets 8 et 9, là, il y aura deux tiers des Juifs qui seront pendant la période de la grande tribulation. Alors, dans tout le pays, verset 8, Zacharie 13, 8, oracle de l'Éternel, les deux tiers seront retranchés, périront, et l'autre tiers y restera. Donc, on sait qu'il y a toujours un reste, le peuple de Juifs fait partie de... aura un reste, le plan de Dieu s'accomplira pour un reste du peuple juif, parce que les appels et les promesses de Dieu sont irrévocables. Voilà, alors je voulais bien distinguer l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le retour de Christ, et ça on le verra plus en détail, on y reviendra en regardant l'Apocalypse. Voilà, mais... ce qui est triste, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises, des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui vivent des vies qui plaisent à Dieu, mais qui sont complètement incultes en ce qui concerne la fin des temps, parce qu'on leur a dit « Ah, il ne faut pas toucher à ces passages. En plus, on a l'impression d'être des fondamentalistes si on croit à ces choses. On prend la Bible à la lettre. Oh là là, c'est terrible. » Et pourtant, l'Apocalypse, on le verra, c'est le seul livre dans la Bible qui nous dise que celui qui le lit est béni. Parce que on commence à comprendre, ou on finit par comprendre, on verra que l'Apocalypse, en fait, elle fait référence à toute la Bible, et notamment à l'Ancien Testament. Et que des choses qui sont commencées dans la Genèse prennent leur fin, sont accomplies. Et on voit, en étudiant l'Apocalypse et en ayant survolé toute la Bible, comment la Bible est un livre complet, comment on peut vraiment mettre sa confiance dedans et en faire notre manuel, notre guide de vie, avoir une confiance totale. Et ça change notre vie. Quand quelqu'un qui est saint, c'est-à-dire qui est sauvé, décède, on peut être triste, parce qu'on n'a plus le contact avec la personne, mais on peut se réjouir pour la personne, parce que la personne est en la présence de Dieu, on la reverra, c'est pas la grand-mère qui sera au paradis en train de nous protéger, mais si elle était chrétienne, on la reverra. Et on n'a pas besoin d'être complètement désolé, complètement perdu. Et c'est vrai que je me souviens du moment où, quand j'ai perdu mon père, j'avais 19 ans, j'avais rejeté la foi catholique que j'avais reçue dans mon enfance, qu'on m'avait enseignée, ce n'est pas une foi personnelle. Le vide existentiel, on est dévasté, on n'a plus de raison de vivre, on peut faire n'importe quoi, on lit Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, on se dit pourquoi pas, après tout, on vit dans l'immoralité, pourquoi ? Parce que le plaisir, c'est la seule chose qui soit tangible. Et toutes ces choses, c'est des mensonges, et Dieu veut que nous sachions ce qui est révélé dans sa parole. Il y a un verset dans Deutéronome qui dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses qu'il a révélées, elles nous appartiennent. Autrement dit, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a révélé, ce qu'on peut connaître, à nous de le connaître, de le rechercher, de l'étudier, de le partager. Voilà pour ce soir. Si vous avez quelques questions, peut-être je vous dirai qu'on répondra à ces questions la semaine prochaine, mais allez-y. C'est pas très interactif, on fait un survol, donc on n'a pas le temps de trop interagir sur les passages. Mais si vous avez des questions, des remarques, oui.
En tant que chrétien, quand on est né de nouveau et qu'on meurt, Où on va ?
Alors, on a parlé un peu de ça dans le survol, et notamment dans des passages avec... dans Philippiens, Paul disait « Je préfère mourir et être avec le Seigneur ». Jésus disait au brigand sur la croix qui avait cru en lui « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Alors, c'est notre esprit, notre âme qui est avec Jésus. Mais notre corps, lui, il sommeille. Il est en terre. Et à la résurrection, on a un nouveau corps. Le premier fruit, c'était le corps ressuscité de Jésus-Christ qui avait des propriétés incroyables. Permettait de traverser des murs.
Alors, ça paraît. On peut manger, boire.
Voilà. Et donc, c'est un peu une
importance.
Ah, mais tout à fait. Non, je crois que c'est. Et je crois que c'est un principe important, c'est que la création de Dieu, c'était pas une mauvaise idée de Dieu. C'est pas comme il s'est dit, Jude, ça n'a pas marché. Le péché a entaché sa création, mais il vient recréer un nouvel homme, une nouvelle terre, et les choses qu'elle a mises en place, beaucoup d'entre elles vont être restaurées. Le fait qu'on va avoir un corps, qu'on va être capable de se reconnaître, des fois les gens disent est-ce qu'on se reconnaîtra les uns les autres au paradis ? En fait, une bonne réponse est de dire qu'on ne se, se connaîtra jamais aussi bien. Parce que là, il n'y aura plus de faux semblants, il n'y aura plus de... On n'aura plus de péché dans notre cœur, dans notre vie. On se connaîtra enfin, et on se reconnaîtra, j'en suis sûr.
Déjà, on a du mal à se connaître nous-mêmes.
Alors, voilà. Comme ça. Anthony, j'ai posé cette question.
Ah oui.
Par rapport à ma fille, par exemple.
Voilà. Mais non, mais alors, et c'est vrai que souvent, ces choses-là, c'est important que vous parliez avec des personnes autour de vous, des non-croyants. Parce que des fois, ils lui disent, mais toi, qu'est-ce que tu crois ? Et c'est important d'avoir ces choses bien claires dans votre esprit. Et c'est vrai que ça peut être un peu confus. J'espère que ce soir, c'était pas trop...
Ah non, justement, ça éclaircit beaucoup de choses.
Tant mieux, c'est le but, hein, c'est d'avoir les choses en place. Et après, encore une fois, comme Paul le disait, ne croyez pas ce que Pierre vous a dit. Allez le chercher vous-même. Vous avez noté, vous pouvez réécouter de la semaine prochaine, à partir du début de la semaine prochaine, ce sera en ligne. Vous notez, vous allez voir, vous en parlez avec d'autres chrétiens. Et puis n'ayez pas de gêne à. Si vous n'êtes pas d'accord sur des points, sur les doctrines de la fin des temps, il y a plusieurs options, des gens qui sont sérieux, qui ont d'autres options. Mais. Vous verrez quand on regarde les différents passages, souvent on dit que l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, c'est arrivé seulement au XIXe siècle avec Darby et compagnie, c'est complètement faux. Ça, c'est des enseignements qui remontent au début de l'Église. C'est des enseignements qui ont été attaqués par l'Église de Saint-Augustin d'Origène et qui ont été mis de côté, que la réforme n'a pas remis à l'ordre, au goût du jour, j'allais dire, n'a pas fait ressortir la vérité, mais ne vous laissez pas enfermer en disant que c'est l'enlèvement de l'Église, c'est une découverte qui n'a jamais été enseignée. C'est faux.